La MIF, en partenariat avec INLI sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour les amis, merci d'être avec nous. Voilà, nous sommes en direct, nous sommes le mercredi 3 juin 2026, en direct du Salon des maires d'Île-de-France, les maires que nous aimons, je vous le dis définitivement. Nous aimons les maires parce que c'est eux qui bâtissent, qui organisent le territoire. Ils sont aux premières loges, d'ailleurs, avec les administrés, et très souvent sollicités, on peut le dire. La thématique d'aujourd'hui, avec notre partenaire INLI, on va parler du logement des salariés pour soutenir la dynamique de l'emploi. Les amis, on ne le dira jamais assez. Le rapport entre l'emploi et le logement est une évidence absolue, on en parle. Beaucoup, on parle d'attractivité économique, de recrutement, de réindustrialisation. Pourtant, c'est un frein majeur parce qu'on le sait. Vous avez juste en France, en 2025, 17% des contrats à durée indéterminée qui n'ont pas pu être signés faute de logement. Comment attirer les talents lorsque les logements sont rares ou carrément inaccessibles? C'est un vrai sujet. Et en plus, bien sûr, avec les contraintes que l'on connaît, comment accompagner le développement économique sans produire davantage d'étalement urbain? Pour en parler, ben justement, on a beaucoup de chance puisqu'on va en parler avec Nicolas Samson qui était avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Massy. Alors vous êtes une ville extrêmement dynamique et vous êtes aux premières loges pour nous expliquer, pour nous parler justement de ce sujet majeur de l'attractivité et du logement des salariés, accompagné par un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous. Il est directeur général d'INLI, c'est Eric Balsy. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Le logement des salariés est un vrai sujet, hein, de rapprocher les salariés de l'emploi. On le sait aujourd'hui, il y a une forme de relégation sociale entre l'éloignement des bassins d'emploi. C'est presque une double peine pour un certain nombre de personnes. Massy aujourd'hui est l'un des territoires les plus dynamiques du Grand Paris. C'est vrai, vous bâtissez, vous développez. Est-ce que la question du logement, et je suppose que oui, est devenue tout aussi stratégique que le développement économique lui-même, Nicolas Samson?
C'est même le sujet numéro un. La crise du logement, le manque de logement en Île-de-France, c'est le drame numéro un de l'Île-de-France. C'est une bombe sociale qui a commencé et qui va continuer, et ça sera pire dans 5 ans qu'aujourd'hui.
Bombe sociale, hein. Les mots sont pas neutres.
Ouais, ben c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe économique et sociale. C'est une catastrophe parce qu'effectivement, je commence par l'angle que vous avez pris, c'est un problème pour le développement économique. C'est même sans doute aujourd'hui l'un des principaux freins. Et c'est évidemment une catastrophe sociale parce que se loger est devenu de plus en plus difficile, et j'allais dire pour toutes les classes de la société. Alors c'est sans doute un peu excessif. Les classes les plus favorisées y arrivent encore assez bien, mais ça ne se limite pas aux populations les plus modestes, loin de là. Donc c'est un drame.
C'est très clair. Alors justement, Eric, quand vous entendez la maire d'agglomération telle que Massy, une vraie dynamique de territoire, vous observez l'ensemble du marché francilien. À quel point finalement la difficulté de se loger est-elle devenue un frein à l'emploi, mais aussi à la mobilité professionnelle?
Alors sur l'ensemble de la région parisienne, mais je pense qu'on peut même parler au niveau national, ça s'est accéléré avec la crise immobilière. Puisqu'auparavant on avait toujours des statistiques sur un actif sur 5 qui refuse un emploi faute de logement. On a nous réalisé une enquête avec OpinionWay où en fait 3/4 des Français estiment que la crise immobilière est un frein à la recherche d'emploi. La CPME avait aussi réalisé ce type d'enquête, donc un actif sur 5, sur 4, bref. On va dire quelque chose qui s'est accéléré. On avait tendance effectivement à avoir un lien emploi-logement plutôt sur des salariés modestes, et donc le logement social jouait son rôle. Et en fait, depuis la crise, que ce soit du logement neuf ou la crise immobilière tout court, on a les classes moyennes, les salariés, et notamment les jeunes actifs, qui n'arrivent plus à se loger. Et donc ça s'est amplifié. Et on constate effectivement que les entreprises, un peu comme à Massy avec monsieur le maire, sollicitent directement les élus. On a des exemples très concrets en région parisienne, sollicite directement les élus pour leur dire aidez-nous, il faut des logements, on n'arrive plus à recruter. Et c'est même plus, donc, on va dire, du logement social, on est sur du logement locatif tout court. C'est très cher et c'est même pire que ça, il n'y a quasiment plus d'offres locatives privées.
Alors j'ai regardé, Nicolas Samson, le volume d'offres à la location à Massy. Si on compare l'offre à la location à Massy sur les 4 à 5 dernières années, l'offre, tenez-vous bien, s'est réduite de plus de moitié.
Je ne suis pas surpris, je n'avais pas le chiffre, mais je ne suis pas surpris.
Plus de moitié, c'est-à-dire qu'il y a 49%, pour être exact, de moins d'annonces à la location, tout marché confondu, sur Massy, qui est une des villes les plus attractives de territoire. Mais ça, vous le saviez déjà, on veut tous aller vivre à Massy. Le problème, c'est qu'on a vraiment du mal à se loger. J'aime beaucoup quand vous dites, parce que je pense que vous mettez des mots forts, vous dites que c'est une bombe sociale, justement. Alors, je vais peut-être poser une question un peu naïve, mais c'est pas rare de trouver, par exemple, un salarié, et je voudrais vous poser à vous deux la question, qui refuse carrément un poste parce qu'il n'arrivera pas à se loger.
Alors, qui refuse directement, moi je le vois comme employeur, je dirais, dans les entreprises, oui. Je vois moins, oui. Mais j'ai pas de.
Mais les retours que vous avez, voilà, du tissu local.
Je l'ai presque encore plus comme employeur, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, par définition, comme employeur, moi j'emploie des gens qui sont typiquement dans la couche qui est l'une des plus problématiques aujourd'hui, c'est les gens, on va dire, c'est le deuxième quartile en partant du bas, je ne sais jamais comment on compte, ou le troisième en partant du haut, bref, les gens qui gagnent en gros entre 1 et 2 SMIC, pour faire simple.
D'accord. Alors pour eux, c'est carrément tâche impossible.
Qui sont typiquement des gens que j'emploie à la mairie.
Bien sûr.
C'est vraiment, enfin moi, mes gros bataillons, c'est des gens qui gagnent entre 1 et 2 SMIC. Et pour eux, c'est très difficile, mais en généralisant pour, alors on l'a dit, vous savez, les travailleurs essentiels, on a mis tous les mots qu'il fallait. Après, moi, je ne pense pas qu'il y ait de travailleurs essentiels ou pas, enfin, j'aime pas beaucoup cette distinction, mais de fait, les enseignants, les enseignantes, les infirmiers, les policiers, enfin voilà, les gens, les catégorisés de la fonction publique, pour le dire comme ça, c'est des gens qui ont un énorme mal à se loger. Donc oui, moi je le vois. Juste un point complémentaire. Moi je pense que si on met les vrais mots, c'est effectivement bombe sociale et je maintiens.
Elle a explosé ou pas ?
Oh, elle est en train d'exploser, mais le problème c'est qu'on sait que ça sera pire pendant plusieurs années. De toute façon, entre le moment où on décide de la construction d'un logement et le moment où il est livré, il y a, allez, au mieux 4 ou 5 ans. Donc, il n'y a pas de mystère. L'offre, elle va être épouvantablement rare et encore plus rare pendant encore 4 ou 5 ans. Ça me rappelle ce que je raconte sur les médecins, ça, mais c'est un autre sujet. Il y a un truc que j'aime bien. Moi, je suis un fan des affiches politiques. Et juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une affiche géniale. Je ne sais plus si c'est de la CGT ou du PC. Avec, en plus de l'image très esthétique des années 50, musculeuse, ouais, et disons, retroussons-nous les manches. Depuis un an, ça va mieux, ça doit aller encore mieux, retroussons-nous les manches. Et je pense que là, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, les promoteurs, les développeurs, les bailleurs, les entreprises, évidemment les mairies les uns les autres, là, il faut qu'on se dise qu'on a un truc à prendre et qu'il faut qu'on se retrousse les manches. C'est un boulot de maire, il y a une part de boulot des maires, mais pas que. Il faut qu'on y aille.
C'est très clair. Éric, sur cette question, c'est
bah pas non, on a
alors vous, vous l'entendez régulièrement, je suppose.
Nous, on a des exemples concrets d'entreprises qui viennent nous voir pour signer des partenariats et des conventions spécifiques pour loger leurs salariés. Mmh. Sur Clichy, hein, si je peux parler d'autres territoires franciliens, on a des entreprises comme L'Oréal, comme Amazon, comme Monoprix, qui ont sollicité les élus et avec qui on devrait pouvoir signer un partenariat. On a signé un partenariat aussi avec la Caisse d'épargne pour le logement de leurs salariés. D'autres nous sollicitent. On a un partenariat existant, on parlait des infirmières, du personnel hospitalier, avec la PHP qui nous réserve des logements. Donc on a aujourd'hui des demandes directes d'entreprises pour loger leurs salariés parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à recruter. Et surtout, certains, faute de logement, et je pense que c'est au-delà des statistiques, concrètement, ils n'arrivent pas à recruter certains profils de jeunes ingénieurs, de jeunes cadres, voire de jeunes techniciens. Vous avez des entreprises comme Thales, Safran. Hein, c'est bien de augmenter le budget de l'armement, mais encore faut-il loger pour recruter.
Eh ben, ça me permet justement, merci Eric, de faire cette transition. Clairement, on fait un peu de politique, de politique proactive. Peut-on parler de politique de l'emploi ? Sans parler de politique du logement. Alors, c'est peut-être naïf comme question, mais quelque part, j'allais dire qu'il y a une multipolarité politique, mobilité, éducation, énergie, emploi, logement. Nicolas Samsoun.
Encore plus que d'emploi, qui est une approche la sociale, j'ai presque envie de dire même de développement économique. C'est-à-dire oui. Que je pense qu'aujourd'hui, le problème du logement est un frein au développement du pays. De fait, vous l'avez dit, Massy est sur un territoire très dynamique. Je pense qu'on en a une part, mais il n'y a pas que ça. Il y a la plateforme d'Orly, il y a le campus de Saclay, il y a toute une croissance. Donc, c'est un territoire qui se développe. Eric évoquait Safran, Thalès, effectivement. Enfin, aujourd'hui, à Massy, non seulement j'ai pas un mètre carré de bureau vide, mais les entreprises en construisent. entreprise. Safran construit 17 000 m2. Il y a une autre grande boîte, c'est un secret de polychinelle qui est en train de closer 20 000 m2. Donc, il y a une demande d'entreprise extrêmement forte. Et je pense qu'aujourd'hui, le logement est un frein au développement du pays. Il faut qu'on se dise que c'est, de ce point de vue-là, et on parle de l'opération d'intérêt national, c'est vraiment un enjeu d'intérêt national.
C'est puissant. Hein, c'est... Non, mais ce que vous dites est très puissant. Vous vous rendez compte, peu importe la couleur politique, hein, je précise.
Ah, mais c'est pas le sujet. Alors,
c'est
là,
pas le
vraiment.
Sujet. Le sujet, c'est on s'affranchit de toutes les chapelles politiques en se disant qu'il y a un sujet du logement des Français. Il y a un sujet qui, finalement, est un sujet composite, multipolaire, dans lequel on ne peut pas traiter de notre activité économique sans traiter du logement, comme on ne peut pas traiter du logement sans traiter d'éducation ou traiter de mobilité. Vous êtes d'accord là-dessus ? On a d'ailleurs, ah ben si, vous avez beaucoup bossé sur les sujets de mobilité. Vous avez désenclavé la ville.
Enfin, moi, honnêtement, moi, j'y suis pas pour grand-chose. Non, je sais que, par définition, tout ce qui arrive dans une commune, c'est grâce au maire, et tout ce qui se passe mal, c'est de la faute du maire.
Ah bah, j'apprécie votre humilité.
Mais honnêtement, là-dessus, j'y suis pas pour grand-chose. Cela dit, puisque...
Alors justement, juste une question un peu comme ça, d'aparté. Comment on explique le succès de Massy dans l'attractivité, qui est réel ? Parce que vous n'avez pas de vacances de bureau. Hein, je rappelle qu'il y a 12% de vacances à la Défense, au niveau des bureaux.
Nous, moi, je suis à moins de 5%.
Incroyable.
Alors, comment on explique ? Il y a une conjonction de trucs. Moi, j'adore raconter une histoire. Il y a le patron d'une boîte qui s'appelle Exotrail, qui est à Massy, et qui me raconte le truc suivant. Donc, c'est une start-up très innovante, mais qui construit des moteurs de satellites. Et qui dit, écoute, quand tu as une start-up qui a besoin d'un ordinateur et d'un baby-foot, en gros, c'est disruption de business model, elle sera dans Paris. Elle sera dans Paris. Prends pas la tête, c'est ça qui est attractif. Dès que tu as une start-up qui a besoin d'être dans une vraie ville, parce que les employés ont envie d'être dans une vraie ville, ils n'ont pas envie d'être sur un campus tout fermé et a fortiori les jeunes.
C'est clair.
D'être bien desservi par les transports en commun, d'être pas trop loin du campus de recherche de Saclay et d'avoir un prix de foncier à peu près raisonnable, en fait, Massy est la meilleure offre. Et donc, le bol qu'on a, c'est ça. Et puis après, il y a un petit truc, et là, je vais faire aller un peu d'auto-promo, mais aussi de promo de mes prédécesseurs, c'est que je pense qu'il y a une culture du développement à Massy qui fait que les projets, on les fait sortir. Alors, c'est une culture du développement qui est, je pense, un peu de la personnalité des différents maires, qui est aussi des opérateurs. Il y a une SEM d'aménagement extrêmement puissante, Paris Sud Aménagement, qui fait des trucs. Et à Massy, on essaye de faire sortir les projets. Donc, il y a une culture collective du développement, et ça, les gens le savent, et se disent, OK, si je prends un truc, en fait, ici, ça va marcher.
Oui, il y avait une conjonction de... j'allais dire d'éléments structurants, mais aussi géographiques, qui font que sur le plateau de Saclay, par exemple, que j'ai vu naître, parce que j'étais dans les premiers dossiers d'aménagement du plateau, extraordinaire, un projet, c'était aussi de créer aussi des aménagements et des mobilités qui permettent justement de mettre en relief cette attractivité économique. L'emploi et le logement, on va dire que on va convenir que c'est indissociable en termes d'approche. Vous accueillez de nombreuses entreprises, des sites sociaux, des activités de recherche et d'innovation. Comment vous l'accompagnez, la croissance économique au niveau de l'attractivité de votre territoire ?
Ce que j'essaie déjà, c'est d'avoir une offre immobilière. Ça, c'est évidemment une première chose. Ensuite, j'essaie que les...
Mais pour éviter justement que ça se décroche, parce qu'il y a un projet, on va en parler tout à l'heure, mais...
On essaye de faire qu'il y ait une offre globale. On essaye, et c'est très important, de considérer que les salariés des entreprises sont des massicois et des massicois comme les autres. Être clair, je vais le dire de manière...
C'est pas une ville de transit.
Strictement électoralement, ils votent pas pour moi. Enfin, certains habitent aussi à Massy, mais la plupart votent pas. Mais à ce détail-là près, ils contribuent à la richesse fiscale de la ville. Ils y vivent. Je dois les considérer comme ça. Et en fait, c'est très important parce que si les salariés se sentent bien sur le territoire, ils contribuent à son dynamisme et ils ont envie de rester. Je prends un exemple tout bête. Il y a un opéra à Massy. Les salariés des entreprises de Massy, même s'ils ne sont pas massicois, ont droit au tarif massicois à l'opéra de Massy. C'est rien, c'est symbolique. Le coût est égal à zéro. Je ne demande même pas d'argent aux entreprises pour ça. Je leur demande juste de signer une convention pour des questions légales. Et en fait, je pense que c'est légitime. C'est des gens qui contribuent à la vie massicoise. Ce dont j'ai envie, c'est que des gens qui travaillent à Massy aillent dans les restos à Massy, aillent à l'opéra de Massy, aillent à Paul B, aillent voir un match de rugby à Massy, aillent demain au centre Pompidou à Massy, et après-demain, ils y habitent. Parce qu'ils vont découvrir que c'est la ville la plus sympa d'Île-de-France. Et forcément, ils vont avoir envie d'y habiter.
C'est la ville la plus sympa d'Île-de-France.
Il n'y a pas débat.
Avec une objectivité absolue.
Ah ben, il n'y a même pas débat.
Merci. Justement, un commentaire, Eric, justement. votre vocation, c'est justement de répondre à toutes ces demandes. Ça doit vous encourager quand vous voyez la dynamique d'un maire aussi engagé.
Et c'est exactement ça. En fait, on partage exactement la même analyse et c'est la vocation justement d'INLI de rapprocher et de favoriser le lien emploi-logement. Mmh. Et c'est vrai que le logement, c'est pas simplement pour recruter, c'est toute la dynamique économique, c'est la réindustrialisation, on a des industries de pointe. Donc si on veut véritablement développer le pays, effectivement, le logement est la solution. Et malheureusement, avec la crise immobilière, ça s'étend véritablement à beaucoup de Français. Donc c'est pour ça que l'offre qu'on propose, et souvent quand les entreprises viennent nous voir ou quand certains nous proposent des terrains, on leur dit, les gens, les salariés veulent habiter, attendez, comme vous l'avez dit, dans des villes où il y a des services publics. Il y a des commerces, il y a de l'activité culturelle, sportive. Donc aujourd'hui, quand on pense au logement, l'emplacement est important. La réduction, on va dire, la distance entre le travail et le domicile est très important aussi. Donc les transports, ça compte beaucoup et c'est la force de Massy. Et donc du coup, quand on a une époque après-guerre développée du logement à proximité des industries, loin de tout, dans la Pampa, aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à en faire quelque chose de ces logements où il n'y a plus du tout d'industriels. Donc nous, effectivement, on est exactement dans cette logique. On est vraiment ravis de travailler avec monsieur le maire, qui a vraiment, on va dire, tout compris dans ce qu'attendent les gens. C'est habiter dans un quartier, dans une ville qui est dynamique, qui offre beaucoup de choses et qui est à proximité de leur domicile. Et s'ils sont prêts, on va dire, et s'ils aiment et qu'ils veulent s'installer, on a chez INLI une vocation aussi de développer l'accession différée, puisqu'en fait, le logement intermédiaire qu'on propose a vocation, au bout de 15 ans, à être vendu d'abord aux locataires occupants et ensuite aux autres. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez, on va dire, vertueux, puisqu'on est dans un parcours résidentiel. On apporte cette mixité à côté du logement social, puisque la classe moyenne a aussi besoin de se loger. C'est une des difficultés qu'on a en région parisienne, c'est que les familles s'éloignent. Il n'y a plus, les statistiques de Massy sont valables en fait dans toute l'Île-de-France. Donc les familles n'arrivent plus du tout à se loger, les jeunes actifs non plus, y compris la classe moyenne. Donc il faut leur donner la possibilité et surtout un développement dans des secteurs qui sont, voilà, qu'on qualifie nous de premium, de prime. On ne peut pas aller développer du logement n'importe où.
Alors justement, je voudrais qu'on illustre le projet, les propos que nous venons de faire, au-delà des incantations et de Babel Community. On peut en parler ?
On peut en parler. On peut en parler puisque finalement, quand les entreprises viennent nous voir en nous disant « Écoutez, on a des besoins pour loger les salariés, les jeunes actifs, des apprentis, des saisonniers, mais aussi des cadres en mobilité. » Vous avez aujourd'hui, avec le télétravail, beaucoup de salariés qui vont avoir des missions de quelques mois, que ce soit des managers de transition, des ingénieurs et autres cadres. Et en fait, le logement classique ne convient pas. On a ce qu'on appelle la RVE, la résidence à vocation d'emploi, donc on attend encore le décret d'application, mais c'est pas encore le cas. Et donc du coup, on a travaillé avec un partenaire, on est parti visiter une de ces résidences à Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole européenne de Lille, et on a vu finalement une offre parfaite pour des salariés aux mobilités qui souhaitent rester quelques semaines, quelques mois, une année au max. Et chez Babel Community, donc les moyennes qu'ils nous ont donné, c'est que les salariés restent entre 6 et 8 mois. Donc ce n'est pas du logement pérenne, ce n'est pas de l'hôtel, puisque l'hôtel, c'est à la nuitée, c'est impersonnel,
c'est cher. C'est du co-living ou pas ?
C'est pas du co-living, c'est vraiment, on va dire, un système qui est hôtelier, mais où on peut rester, on peut rester jusqu'à 18 mois si on a envie.
Donc c'est un kibbutz ? Non, non, mais je trouve ça génial parce que 200 unités, il me semble.
198.
198, c'est énorme. Un mot là-dessus ? Formidable initiative.
Ouais, très, très chouette. Là-dessus, moi, beaucoup d'humilité de ma part, j'écoute. Y a des mutations sociologiques très fortes en cours et qui sont profondément liées à la question du logement dans les deux sens. C'est-à-dire c'est à la fois causé et ça a des conséquences sur la question du logement. Le truc le plus flagrant, c'est la question de la natalité, qui est quand même un changement énorme.
Absolument.
Moi, je suis vice-président du département de l'Essonne, par ailleurs. Si on a une baisse de la natalité de 15 ou 20%, c'est facile. Dans l'Essonne, on a 100 collèges. Bon, faire un pourcentage. Quand il y a 100 collèges, une baisse de 15 à 20%, si je le fais un peu brutalement, le calcul est assez facile. Ça fait à peu près 15 à 20 collèges qu'il faudrait fermer. Alors, évidemment, on ne va pas fermer 15 à 20 collèges. Je ne vais pas donner peur à quiconque.
Oui.
Mais vous voyez l'ampleur de ce qui se passe. Donc, on a des sujets d'évolution sociologique. Là-dessus, les acteurs économiques, les acteurs privés, ils sont souvent plus réactifs que nous. Et il faut qu'on ait l'humilité de les écouter pour trouver des solutions. C'est vrai que, comme tout bon élu un peu classique, j'ai parfois tendance à raisonner logement familial, logement social, etc. Je suis convaincu qu'il faut qu'on trouve des solutions pour, dans les interstices, mettre de la fluidité dans le système. Et là, moi, je suis très preneur. Enfin, voilà, cette initiative, elle est intéressante. En plus, elle est intéressante parce qu'elle recycle un bâtiment de bureau. Elle est très vertueuse de tout point de vue. Il y a un sujet de parking qui est un peu intelligent là-dessus. Enfin, il y a plein de projets plutôt marrants. Mais il faut qu'on soit à l'écoute et qu'on sorte de nos systèmes hyper rigides de financement du logement.
Alors, justement, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on aborde très rapidement, de manière lapidaire, mais des sujets importants. Les mobilités professionnelles sont de plus en plus accrues. Vous l'avez dit d'ailleurs en liminaire, c'est des nouveaux usages. Hein. Et d'ailleurs, je vous donne un chiffre, Nicolas Samsoun. En 2025, il y a eu 651 000 décès contre 645 000 naissances. Donc on a tout résumé, hein, vous avez résumé. Donc la natalité, le développement économique s'accompagnent aussi d'une politique de peuplement. On voit bien que tout ça est lié. Justement, transformer plutôt que construire. Grosse thématique face aux objectifs de la société qui ne veut plus d'ailleurs d'étalement urbain, on peut le dire. La sobriété foncière commande zéro artificialisation nette. Ça ne veut pas dire zéro, on ne construit pas. C'est-à-dire qu'on rend à la nature un peu. C'est plausible, c'est engageant.
À l'exemple de la
résidence. Quand on voit Babel Community, on voit que c'est réaliste.
Complètement, en fait, on qualifie ces résidences de résidences emploi et mobilité. Donc c'est entre le logement et l'hôtel. Et c'est les anciens bureaux de Safran qui sont transformés, non, ou d'une autre.
General Electric.
C'est General Electric, qui sont donc transformés par un promoteur et qui seront gérés par Babel Community. On transforme des bureaux qui sont très bien placés. Même si on peut encore trouver un peu de foncier, mais là l'avantage c'est que vous avez déjà une structure et que ce type de résidence, presque 200 logements, s'y prête très très bien parce que vous avez un patio central qui est végétalisé, vous allez avoir des salles de sport, des espaces de coworking.
Et ça coûte pas forcément plus cher.
Ça coûte, moins cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans, puisque finalement on arrive à avoir des décotes importantes, puisque finalement les propriétaires ont compris qu'ils ne pouvaient pas relouer certains actifs qui sont plus du tout au goût du jour aussi. C'est-à-dire comme dans les bureaux, il faut aussi être attractif pour les salariés. Vous avez des bureaux qui s'y prêtent plus. Vous avez aujourd'hui, en termes d'entreprise, en termes d'architectes, un savoir-faire qui s'est bien développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive plus facilement à transformer. On a des exemples très concrets à Suresnes et à Nanterre. À Nanterre, une grande résidence étudiante de 646 unités étudiants, chercheurs, jeunes actifs. Et on a à Suresnes un exemple très concret. Là, on est sur du logement familial classique. Donc, on sait faire. L'avantage des bureaux et la ville de Paris fait aussi appel à nous parce qu'à Paris, ça commence à se vider également. Ça s'est accéléré. On peut transformer ces bureaux en logement beaucoup plus facilement et de manière plus maîtrisée aujourd'hui. L'avantage que j'y vois, c'est l'emplacement, souvent.
C'est très clair, c'est très clair. Rapidement, Nicolas Samsoun.
Alors, je pense que la réutilisation de bâtiments, c'est intéressant, il faut être ouvert à tout. Ça va rester quantitativement marginal quand même. En revanche, le fait de reconstruire la ville sur la ville, pour prendre l'expression cultivée il y a 20 ans, aujourd'hui, typiquement à Massy, c'est une évidence. Je veux dire, on est en désimperméabilisation nette depuis plusieurs années. Le projet de Villegénis, où on a fait un peu plus de 1000 logements, c'est un projet où on a 5 hectares d'espace vert de plus à la fin du projet que ce qu'il y avait sur la friche. Il y a un grand projet, alors dont on parle par ailleurs parce qu'il y a l'hypothèse PSG qui est une hypothèse sur le secteur, mais de transformation d'un site où il y a à la fois une friche commerciale et un très grand hypermarché Carrefour qu'il faut qu'on déplace à cet endroit-là qui fait 20 hectares. Moi, j'ai mis comme contrainte qu'on créerait 5 hectares d'espace vert là-dessus et c'est une contrainte qui est naturelle pour tout le monde. Donc le fait d'être non seulement en zéro artificialisation nette mais en désimperméabilisation nette et en densification dans des villes comme Assis, c'est une évidence.
C'est très clair. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous les deux. Un immense merci, Nicolas Samsoun, maire de Massy, vice-président d'ailleurs également du département. Merci d'être passé par le plateau. Je pense qu'on va forcément se revoir très vite. On a avec besoin des maires. On est d'accord ? Ah. On a besoin des maires.
Dans le bordel institutionnel de l'Île-de-France, c'est le seul truc qui marche.
Ça s'appelle avoir le sens de la formule. Voilà, merci beaucoup. Un immense merci à Eric Balsi et aux équipes. Merci à Grégoire et à Cécile d'avoir organisé cette table ronde. Vous pouvez récupérer le podcast, bien évidemment, sur l'application comme d'habitude. Likez, commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure.
La MIF, en partenariat avec INLI sur Radio Immo et Radio Territoria.